Bienvenue à la série Le Monde change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici et des proches qui nous témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Les gens des îles aiment le voyage, aiment quitter les îles et y revenir. L'accueil fait aussi partie de notre ADN. Notre destination touristique fait partie de bonnes avenues pour bon nombre de voyageurs. Depuis 40 ans, les changements se sont succédés pour parvenir à en faire une activité qui injecte des millions de dollars annuellement dans l'économie. Il y a 40 ans cette année, Odette Cormier débutait dans la sphère du voyage. L'industrie touristique n'a plus de secret pour elle. Voici le portrait d'une femme passionnée.
Je suis native de Gros Cap. Je suis la fille de Arnold Cormier, Georgette Bourgeois. Nous étions 9 enfants. Quand j'étais très, très jeune, à l'âge d'un an et demi, ma mère était souvent malade. Puis j'ai été adoptée. J'ai resté quelques temps chez une cousine de ma mère, Claudette Bourgeois et Fred. Dans ce temps-là, ça se faisait beaucoup, hein. Ma tante, une cousine ou une voisine n'avait pas d'enfants. Et avec le temps, j'ai comme resté là.
Donc, vous étiez la seule enfant à pas habiter avec ses parents?
Oui, c'est ça, parce que c'était supposément d'être très temporaire, comme pour un mois. Et mon autre sœur, après un mois, moi, j'avais un an et demi. Mon autre sœur avait 6 mois. Elle a été à l'hôpital, restée chez les sœurs, puis moi, j'ai été chez des voisins, quand même très, très proches. Mais j'ai resté toute ma vie. C'était un gros choc pour mon père. Mon père qui était très sensible. J'étais comme un corps de mille de chez nous. Fait qu'en vieillissant, mes amis étaient quand même mes frères et sœurs. Je pense que ma famille a quand même déteint un peu sur moi, mon père. Mon père était...
La famille biologique.
Biologique, oui. Mon père, on l'appelait le petit Arnold. Et ma mère est restée à la maison. Mais mon père, il a été 42 ans à la factory. La cocasse, là, la petite cuisine des employés. C'est la petite pointe de Gros Cap. Ce qui est aujourd'hui la Renaissance. Papa, il a toujours été assistant gérant jusqu'au décès de monsieur, la maladie et le décès de monsieur Léger Bourque. Qui fait que papa a pris la relève comme gérant. Il nous a laissé quand même des valeurs. C'est un homme honnête, c'est un homme de foi, c'est travaillant, c'est un homme qui était juste. Dernièrement, il a eu comme 100 ans. Mon père, c'était tous les Cormier de la Vernière, tout le secteur de la polyvalente, la même famille des Cormier. Du côté de ma mère, du côté des bourgeois, c'est tout le Gros Cap. La famille de Théophile. Donc Théophile avait plusieurs garçons. Procule, mon grand-père, Jean-Baptiste, mon grand-père adoptif. Et c'est tous des gens qui étaient des gros travailleurs. Puis c'est des gens qui ont travaillé beaucoup au niveau du développement du système coopératif, entre autres. Ils étaient dans les fondateurs de la factory, la coopérative du Gros Cap. Puis ma grand-mère, c'était du côté des Landry, des temps du Nord. C'était des gens travaillants, c'était des gens qui avaient du cœur. Quand on disait ma grand-mère Fita, on disait pas Théo Fita, on disait ma grand-mère Fita. C'était une personne qui avait énormément d'énergie. Donc, quand on ressemblait à ma grand-mère Fita, là, on avait du guts, comme on dit.
Et vous et vos frères et vos sœurs, est-ce que vous avez suivi les traces de vos parents?
Mais on était des gens que, quand on prenait un emploi, on y passait notre vie. On était comme fidèles à l'employeur. Et je parle de moi, mais je parle aussi de mes frères et sœurs. Un qui a été 42 ans dans l'armée, un autre qui est dans la GRC, un autre qui est à Hydro-Québec. J'ai une sœur qui a été dans le domaine hospitalier toute sa vie, au moins 35 ans. Ils ont toujours gardé des postes toute leur vie. Et notre père aussi a été beaucoup sur les conseils d'administration. Dans ce temps-là, la coop l'unité, la caisse populaire. Il a été comme longtemps sur des comités comme ça, qui fait que nous autres aussi, on était sur des comités. Dans mon cas, j'ai été au niveau de la Chambre de commerce plusieurs années. Et j'ai été aussi au niveau de l'association touristique.
Odette Cormier, au niveau scolaire, vous suiviez un peu les traces aussi de votre père avec un cours en administration du côté de la Gaspésie.
J'ai connu dans les années au cégep de Matane, ils se donnaient le cours en technique touristique. Ce qui manquait en administration était là. Donc, j'ai fait 2 cours de 3 ans. Donc,
qu'est-ce qui vous intéressait par le tourisme?
C'était le côté du marketing, le développement de produits, le développement au niveau des destinations. C'était toute cette partie-là, c'était le côté humain. Ça a été captivant pour moi. C'est là que j'ai appris à me connaître et à me donner confiance en moi. J'ai fini mon cours en 1982. J'ai travaillé pour l'association touristique, puis après ça, j'ai travaillé pour Hydro-Québec. Puis après ça, je devais retourner aux études à l'Université du Québec à Montréal. J'avais été acceptée 9e meilleure sur 120 dans la gestion du développement touristique. Puis en 1983, là, j'étais aux îles quelques mois, j'étais approchée par l'agence de voyage. Voyage Frontenac était une compagnie qui appartenait à des propriétaires de Québec. Puis, j'étais comme un employé. Ils croyaient au développement dans les agences de voyage, mais il fallait donner un coup de pouce encore plus pour que ça se développe. Puis, M. Bilodeau, qui était un bonhomme sympathique, il est venu aux îles, je l'avais jamais connu, jamais vu. Puis, on était super au restaurant, puis en revenant du restaurant, il dit, Odette, j'ai venu fermer l'agence. Pourtant, ça me fait mal au cœur. Voudras-tu prendre la direction? Il dit, me ressemble, t'as tellement de guts, tu pourras la développer. J'ai travaillé de 1984 jusqu'en 1996. Ça a toujours appartenu à une compagnie de Québec. Ça s'appelait Voyage Frontenac au sous-sol du Toit du Pêcheur. Ça a été Intervoyage au centre d'achat. Mais ça appartenait toujours à une compagnie de Québec à 100%. Puis après ça, ben là, ben, j'étais en couple avec Léon, mon conjoint. À l'époque, j'avais comme 35 ans. Puis il disait, regarde, je te vois travailler. Puis il travaillait pareil, lui aussi, de son bord, là. Et il disait, tes années de santé, tes belles années à toi de productivité, tu le donnes pour les compagnies de l'extérieur. T'es pas propriétaire, t'as pas d'action. Puis tu travailles comme une folle, comme si c'était à toi. À un moment donné, ça va changer de main. Puis là, ben non, moi, ça ne m'intéressait plus. Ça a fait qu'il a décidé de partir du domaine du voyage. J'avais le volet aussi voyage CA, du CA Québec, que Léon était déjà affilié au niveau du remorquage. Puis il disait, tu devrais venir avec moi. Quand on va aller à Québec, on devrait aller les voir. Puis à la même période, j'avais des amis qui étaient avec moi anciennement dans l'agence de voyage qui étaient rendus haut placés au CA Québec, aussi bien mes contrôleurs financiers, aussi bien des directeurs généraux, qui avaient changé de place aussi. Puis M. Pelletier, qui était au CA Québec à l'époque, qui arrivait du domaine aérien, comme chez Canadian Airlines et tout ça, qui me connaissait. J'étais, comme dit le bébé éprouvette, j'étais la première agence de voyage franchisée, Voyage CA.
On va faire une pause avec un auteur-compositeur malino que vous appréciez particulièrement, Didier Turbide, avec la chanson « Au creux de la vague ».
Quand on écoute les paroles, moi je suis une personne aussi dans toute ma vie qui est croyante. Ben, je viens d'une famille qui a quand même la foi. Puis, dans tous les moments de détresse, dans tous les moments dans nos vies, c'est la chanson « Au creux de la vague ». Puis quand on écoute les paroles, moi, les paroles me viennent me chercher beaucoup. Et c'est comme une force, cette chanson-là. Je l'apprécie beaucoup.
Au creux de la vague, je me suis embarqué sur le bord de la baie pour le monde des grands au bout de l'horizon. Et la vie m'a brassé pour me faire renverser quand tout seul j'ai bien vu que j'étais sans issue. Au creux de la vague, j'ai crié, mon Dieu. Le Tout-Puissant m'a sauvé. Je montais de nouveau sur un plus gros bateau, mais cette fois très certain de me rendre plus loin. Et le vent d'un seul coup m'avait pris le dessous. Je sombrais sans pouvoir au seuil du désespoir. De la vague, j'ai crié, mon Dieu, et à l'instant, le Tout-Puissant m'a sauvé. J'ai sauté sur le bord d'un paquebot tout en or, pour enfin traverser en toute sécurité. Mais l'orage est tombé et tout s'est enfoncé. je me sentis perdu encore une fois de plus. De la vague, j'ai crié, mon Dieu, et à l'instant, le Tout-Puissant m'a sauvé. Je lui ai demandé sur quoi bien m'embarquer, alors il mit à l'eau mon tout premier radeau. Je te suivrai toujours, t'apportant mon secours, tu iras sans naufrage jusqu'au bout du voyage. Au creux de la vague, j'ai crié, mon Dieu, et à l'instant, le Tout-Puissant m'a sauvé, m'a sauvé.
Vous êtes toujours à la série Le Monde Change avec Odette Cormier. Il y a 40 ans cette année, vous avez débuté votre quête au niveau du tourisme, dans les voyages. Il y a eu abondamment de changements dans cette période-là, notamment chez les compagnies aériennes qui ont desservi les îles de la Madeleine.
Moi, je m'en souviens, quand j'ai commencé à voyager, quand j'étais jeune, il y avait Air Gaspé. Après ça, il y avait Eastern Provincial Airways.
Ça, c'est dans les années 70?
Plus 75 en montant. Il y a eu Eastern Provincial, Air Maritime, Québec Air, Air Atlantique. J'ai connu Inter Canadien, Inter INTAIR, Air Alliance, affilié Air Canada. Air Montréal aussi, qui voyageait avec des Metroliners, me semble, à l'époque. J'ai connu aussi Aéropro, Aéro Bonaventure, Air Saint-Pierre, Québec Air Express. Là, on est avec Pascan Aviation, on est avec PAL Airline, qui est la ligne aérienne provinciale. Des vols non-lisés qui rentraient aux îles. Ça menait aussi à des compagnies de charter qui venaient aux îles. Donc, on a eu connaissance, on a eu à faire des non-lisements. C'est sûr qu'il y a eu des compagnies qui ont fait faillite, des compagnies qui ont changé des destinations. On avait des fois du Charlottetown, on avait du Moncton, on avait du Mont-Joli, on avait du Halifax. C'est toutes des choses qu'on n'a plus, pour des raisons financières aussi, qui ont disparu comme région.
En vivant sur une île, les transports sont prioritaires. Il arrive de façon cyclique qu'on élabore des projets, à savoir, est-ce qu'il serait du domaine de la faisabilité d'avoir notre propre compagnie aérienne, notamment avec CTMA, puisqu'il s'agit d'une coopérative de transport maritime et aérien?
Disons qu'une compagnie aérienne, c'est quand même très, 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 très coûteux. Au niveau des îles, puis même au niveau de la Gaspésie, je pense bien que si on n'avait pas d'aide financière gouvernementale, il ne faudrait pas penser à des choses comme ça. C'est très, très lourd, là. On a bien beau avoir des systèmes coopératifs ou quoi que ce soit, mais on regarde ce qui se passe présentement. Je suis pas dans une boule de cristal, là, mais je suis pas certaine là, que ça serait... Ça prend un certain volume aussi, puis c'est sûr qu'on a Air Saint-Pierre aussi, qu'on pourrait regarder comme compagnie, comment ils s'organisent aussi. C'est sûr que c'est la seule compagnie qui est du côté de Saint-Pierre et Miquelon. C'est sûr qu'une compagnie aérienne, c'est difficile aussi.
Revenons au domaine du voyage, il s'est produit nombre de changements dans ce secteur d'activité au cours des 40 dernières années. Vous y avez travaillé et vous avez notamment apprécié les fameux voyages de groupe.
Moi, quand j'ai commencé, on faisait connaître aux gens le domaine du voyage. C'était pas développé. Les voyages dans le sud étaient très rares, les voyages en Europe aussi. Et moi, j'avais fait une force aussi avec les voyages organisés avec les groupes d'âge d'or à l'époque. Donc, j'apprenais aux gens à voyager en groupe et voyager, apprendre à découvrir les régions. Il y a des gens qui m'ont accompagné pendant 20 ans de leur vie, des personnes âgées. Et je les ai emmenés partout au Canada. Donc, les maritimes partout au Québec, dans l'Ouest canadien, en Ontario, je les ai emmenés partout, je les ai emmenés à Nashville. Et dans le domaine du voyage, à l'époque, c'était comme une profession. Les gens se fiaient sur nous. Il faut être très, très, très renseigné, il faut la voyager, parce que les gens se fiaient aussi sur notre expérience de voyage. On allait aussi dans des voyages de familiarisation et tout ça pour connaître des produits, des hôtels et tout ça. C'est sûr que la formule aujourd'hui est différente. Mais quand tu regardes les problèmes de météo, les problèmes des bagages, les retards des vols, les manques de connexion, moi, c'était une passion. C'était une passion, parce que j'adorais les détails. J'adorais calculer mes distances. J'organisais de A à Z et je me fiais jamais sur une autre personne pour déléguer des choses. Ce que j'aimais aussi, c'est que, mettant un exemple, on partait des îles, on allait chaque côté. Non, on se rendait jusqu'au Havre Saint-Pierre. Il y avait des visites industrielles. On allait à Manic 2, on allait à la Renault. Toutes les visites industrielles, les visites culturelles, les parties avec les Madelinos, les francophones ou les Madelinos, dépendamment des places qu'on allait. Le lac Saint-Jean, je l'ai fait une fois puis un autre. Au nord aussi, j'ai fait Terre-Neuve, Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Jean-Terre-Neuve, avec les francophones du côté est et du côté ouest de Terre-Neuve. J'ai emmené des groupes dans l'Ouest canadien. C'est moi qui étais la guide sur place aussi. J'ai fait un grand tour d'Europe avec des groupes aussi. Les croisières, ça a été une passion pour moi. J'ai fait 22 croisières. J'ai fait l'Alaska aussi. J'ai quand même beaucoup voyagé, mais il y avait comme un blocage en moi quand même dans mon développement de voyage. À un moment donné. J'avais pas le goût nécessairement faire l'Égypte, j'avais pas le goût nécessairement faire la Chine, mais j'adorais les bateaux. J'ai fait du Sud, les Antilles, j'ai fait de l'Ouest canadien, ça a été une passion pour moi. J'ai été une dizaine de fois dans l'Ouest. Et du côté de Vancouver, j'ai fait la Californie. Ben, j'aime beaucoup, beaucoup voyager par la route aussi. Je peux m'en aller à une destination, me louer une voiture, puis voyager par moi-même. C'est pour ça qu'après ça, j'ai développé beaucoup les entreprises.
Mais avant d'aller plus loin, là, dites-nous, dans tous les voyages organisés que vous avez préparés, que vous avez réalisés, il y en a certainement un ou deux qui est mémorable.
Puis des fois, c'est des voyages simples. On parlait tantôt, tu sais, quand j'ai organisé mes fameux voyages d'autobus. C'était en même temps qu'il y a eu Intercanadien qui avait fait faillite. Dans le même temps, il y avait aussi le crash du 11 septembre 2001. Comme de raison que c'était une catastrophe dans le domaine du voyage, dans le domaine aérien, dans le domaine du voyage mondial. On était une petite agence de voyage aux îles, on avait quand même un bon marché, mais je m'en souviens, je m'avais assis avec mes employés, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne tiendra pas le coup. On était au mois d'octobre, novembre. Les gens avaient peur de voyager, les enfants n'étaient plus capables de voyager accompagnés, c'est non accompagnés, mais accompagnés d'un hôtesse. Les billets d'avion étaient à charge, le nombre de sièges disponibles à la population était quand même restreint. Ben là, j'ai dit, on va lancer un petit voyage d'autobus. On verra ce que ça donnera. Aller-retour, j'avais du monde des îles, j'avais du monde qui sortait des îles, j'avais du monde qui rentrait aux îles sur ce voyage-là. Ça fait que j'en ai lancé un. Oh, tout d'un coup, un deuxième. Tout d'un coup, on avait de la demande, un troisième. Quatrième, on s'est ramassé avec 200 passagers qui sortaient des îles, mais on faisait un voyage de retour. T'sais, on faisait, nous autres, les guides, on partait des îles, on allait prendre notre voyage à Montréal et tout ça. Donc, j'ai fait rentrer aux îles 200 passagers, des étudiants, des gens qui venaient voir leur famille, des enfants qui venaient voir leurs autres parents qui étaient aux îles, qui avaient 11 ans, 10 ans, qu'on accompagnait nous-mêmes. Je m'en souviens, cette fois-là, on avait tout bloqué le Cap-Homel, parce que les gens arrivaient à pied à Cap-Homel, OK. Ça sortait du quai, il y avait 200 voitures qui venaient chercher des passagers à pied. Et on avait 200 personnes aussi qui sortaient des îles pour aller se promener à l'extérieur. Donc, j'avais 400 passagers qui sortaient et qui rentraient aux îles. Je m'en souviens très bien quand les étudiants ont rentré aux îles, que les parents étaient paniquait un peu, était inquiète parce qu'il n'y avait plus de voyage d'avion, tout ça, ça limitait, ça coûtait cher. Et je voyais les parents pleurer. Et ça, ça m'avait fait un petit velours, mais je pleurais moi aussi. Parce que je gardais, j'avais fait quelque chose, j'avais accompli quelque chose pour la situation qui était quand même exceptionnelle. Et au retour, au mois de janvier, c'est la même chose. C'était encore les mêmes 400 personnes qui faisaient les allers-retours aussi. Il fallait toujours que je sois avec un prix d'appel intéressant. Il fallait qu'on soit à un prix très bas. Les gens faisaient des allers-retours à 200 $ incluant le bateau. Donc, ça a été une de mes belles réussites là, pour des moments de problèmes qu'il y avait aux îles. Et par la suite, ben, là, on en faisait à Pâques. On en faisait à l'été, cinq, six fêtes de semaine pendant l'été, là, qu'on rentrait du monde aux îles se promener. Il y avait du monde qui allait se promener à l'extérieur.
Parce qu'il faut se rappeler, à une certaine époque, les voyages organisés étaient très populaires. Et aussi, je me rappelle, les fameux voyages de Star Academy.
Ouais, ça a été pas mal dans les mêmes années. Ben, c'était l'année de Wilfred Le Boutillier puis Marie-Hélène Thibert. Je m'en souviens, on a dit, on fait un voyage organisé par la Moncton. Bon, on commence un voyage. Puis c'était tellement populaire. Moi, j'appelais dans les maisons, t'attendais le Star Academy à pleine tête. Ça fait qu'on commence à lancer un voyage. Il se remplit bien. Il y avait de la demande pour un deuxième. Il y avait de la demande pour un troisième. Il y avait de la demande pour un quatrième. On continue. Là, à un moment donné, on était plein. On avait 220 personnes qui sortaient des îles sur le même bateau et on avait réservé la moitié du château Moncton et j'avais tout commandé des pizzas, tu sais, parce que là, il faut la manger vite pour s'en aller à Star Academy. Mais ce qui était comique, c'était les pères de famille appelaient découragés sur les nerfs parce que sa fille, il faut là qu'elle s'inscrive, parce que là, sa matante s'en allait avec sa petite cousine et il faut là obligatoirement qu'elle soit à bord de Star Academy. Mais c'était la folie. À mon avis, on appelait ça Star Epidémie parce que c'était, je me souviens, j'avais un employé à l'époque, elle dit, moi, là, les pères appelaient, mais je t'en supplie, trouver une place. Elle appelait ça Star Epidémie. Quand on est parti des îles, on s'est ramassé à Moncton, puis on avait pris le château Moncton, puis là, j'avais commandé tout le souper de tout le monde. Ben, on était tous du 4 par chambre, ça fait qu'on avait pris la moitié du château de Moncton, puis on avait une salle, tout le monde attrapait sa pointe de pizza, puis c'était souper comme ça vite, puis après ça, on partait toute la gang pour aller voir Wilfred de Boutillier. C'était les enfants, les mères, les grands-mères, tout le monde partait ensemble, les familles. Puis là, ben, il n'y avait pas beaucoup d'hommes à bord, mais ça, tout le monde en gagne. Quand on arrive à bord du bateau, c'était spécial.
Ça te remplit le bateau assez vite.
C'est ça, oui.
Combien de voyages vous avez pu organiser?
J'ai commencé avec l'Âge d'or de Vernière. Après ça, ben, j'avais mon beau-père qui était du côté de l'Âge d'or de Grande-Entrée. J'avais l'Âge d'or du bassin du Havre qui était ensemble. J'avais l'Âge d'or de Fatima, je pense aussi. Donc, j'en ai organisé à tous les années. Puis après ça, ben, les âges d'or étaient plus des groupes ensemble qui voyageaient comme tout l'âge d'or. Ça fait que là, on lançait à l'âge d'or à tout le monde. Puis ces années-là, ce que j'avais beaucoup travaillé, il y avait beaucoup de femmes qui tombaient veuves, qui n'osaient plus voyager. Des personnes qui étaient habituées de voyager avec leur conjoint, le conjoint décède, puis là, ils tombaient tout seuls, ils ne voulaient pas voyager pour embarrasser les enfants. Ils se sont mis à faire des voyages de groupe. Mais on a eu du plaisir. Plusieurs fois, j'ai fait la Côte-Nord. J'ai fait le lac Saint-Jean plusieurs reprises. Tout le Québec, bon, on était jusqu'à Havre-Saint-Pierre. J'ai pas fait le nord du Québec. Beaucoup les maritimes aussi. On a fait Terre-Neuve, on a fait des voyages organisés par avion avec le Saint-Pierre et Miquelon. On a fait l'Ontario, Niagara, tout ça. On a fait jusqu'à Nashville en autobus. Floride, j'ai fait au moins 4 gros voyages du groupe en Ouest canadien. Des croisières de groupe, des groupes de danse. Quelqu'un me disait, ah, Odette, l'année prochaine, là, on avait fait le tour de la Gaspésie, un exemple. Ah, Odette, l'année prochaine, ça serait le fun que tu referais encore à lac Saint-Jean. Ben, oui, tout le monde est d'abord, ça se va la main. OK, on faisait le lac Saint-Jean l'année prochaine. On faisait Québec, Trois-Rivières, on faisait beaucoup de visites, grand-mère, Shawinigan. Puis là, on ajoutait Saint-Tite, on allait passer une bonne journée à Saint-Tite. On y allait, normalement, c'était la deuxième fête semaine, donc on y allait. C'était toujours en septembre, ces voyages-là. Moi, j'ai eu du fun, mais vraiment du fun. Là. Les gens de l'âge d'or, là, hey, on avait du fun, ça, on avait de la danse, toutes sortes de choses qu'on organisait. C'était vraiment un plaisir fou.
Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-le, donne-le. Oh les mains.
On est de retour avec Odette Cormier. On traite de voyage et de tourisme. Auparavant, on a parlé de l'extérieur. Maintenant, si vous le voulez, parlons de l'intérieur, les îles de la Madeleine comme destination touristique. Là aussi, il y a eu beaucoup de changements en 40 ans. Et il y a des défis à relever ici comme ailleurs. L'après-pandémie est un de ceux-là.
Je pense que c'est important qu'on se tiennent tout le monde des îles, tout le monde qui est dans le domaine touristique, que ce soit les hôteliers, les auberges, les maisons à louer, les chalets à louer, les restaurants, pour revenir à une destination touristique au moins du mois de mai au mois d'octobre. Nous autres, avant la pandémie, Marie-Ève, ma fille, dans le domaine du développement et tout ça, on a travaillé avec les tour opérateurs. On avait aussi des collaborateurs, des influenceurs qui venaient aux îles. On en faisait demander aux îles, on en recevait aux îles. Une bonne quinzaine par année dans différents secteurs d'activité du tourisme. Pour faire connaître la saison touristique, faire connaître les îles dans d'autres dates aussi que le mois d'août. Et on avait des concours, faire gagner des voyages aux îles et tout ça. Et pour nous, on développait notre location d'auto, là, vraiment la période de pointe. Là, on voulait que ça soit au mois de mai jusqu'au moins la vingtaine d'octobre. Mais si le produit touristique autour de ça ne suit pas, c'est sûr que c'est bien beau, on a parlé de la pandémie, puis on parle aussi de la pénurie de main-d'œuvre. Et on est tout le monde, moi comme les autres, on est dans ça aussi. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Moi, présentement, un exemple, les gens qui arrivent aux îles puis qui n'ont pas de restaurant ouvert, peut-être une liste de ce qui est ouvert. À un moment donné, il y a d'autres destinations au Québec, autres que les îles de la Madeleine, qui sont sur la terre ferme, ou que ce soit dans les maritimes. À un moment donné, on va se cogner le nez. Parce que si on n'est pas capable de accommoder les gens qui rentrent aux îles 12 mois par année, là, c'est ainsi, on a des gens d'affaires. C'est sûr que pour nous, je ne dirais pas que c'est la basse saison, c'est la saison moins forte, mais on est là tous les vols pour accommoder les clients qui rentrent. Puis, c'est important que les hôteliers, c'est important que tout ce qui existe comme produit touristique, c'est sûr qu'on a des coûts majeurs aussi, il y a des coûts basse saison et tout ça, mais de tenir tout le monde puis essayer d'offrir quelque chose d'intéressant au mois de mai, là. C'est le fun aux îles. Puis les gens qui sont à la retraite, bien souvent, ils viennent prendre une vacance avant de prendre leurs vacances. Donc, c'est les gens là, qui sont faciles à aller chercher au mois de mai, au mois de juin. Puis là, surtout si les compagnies aériennes, bon, avec le tarif à 500 $, les îles sont quand même plus abordables. Offrir un produit puis un service, c'est ça qui est important.
Les îles de la Madeleine, c'est une destination que vous dites haut de gamme?
Oui, on est quand même haut de gamme.
En quoi on se distingue?
C'est sûr qu'on offre de plus en plus un produit. Regarde les touristes qui rentrent aux îles, je dis, regarde, on a tellement un inventaire de tous les produits. On n'a rien à envier des autres. Donc, on a quand même un très beau produit à offrir à la population du Québec, qui est les plus proches, du Canada, la population européenne.
On a une place.
C'est ça, on a une place, mais il faut la garder, notre place, parce qu'il y a d'autres places aussi qui sont intéressantes. Et c'est pour ça que c'est important que tout le monde en soit conscient. Parce que si on dit, garde, moi, j'ouvre du mois de juin jusqu'à la première semaine de septembre, on est en train de reculer. On est en train de reculer. C'est malheureux. Parce qu'il faut recommencer à être ce qu'on était. Puis c'est pas facile à gagner, là. On décide de, bon, élargir la saison touristique. Il faut qu'on se tienne tout le monde, puis qu'on soit capable de l'offrir aux gens, de publiciser aux gens. Venez aux îles au mois de mai avec la saison du homard, les activités, la bonne restauration. On a des bons restaurants, des bons produits. Faut pas avoir peur de relancer. Pas rester en disant, ben, regarde, on a la pandémie, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. C'est partout pareil. Faut aller de l'avant.
Odette Cormier, depuis 40 ans, vous êtes dans le domaine du voyage. Vous avez visité nombre de régions touristiques. Qu'est-ce qui assure une bonne destination selon vous?
Ben, une bonne destination, c'est une destination aussi qui est accessible au niveau des coûts. Après plus de jours amener aux îles si on vient par bateau, contrairement à des destinations, tu prends l'avion tout de suite. Hein, puis si tu arrives en voiture aux îles, c'est différent. Puis le marché qui rentre aux îles rentre beaucoup, beaucoup par voiture. D'être accueillant, d'avoir un bon produit, de ne pas avoir peur d'exposer aussi tout ce qu'on a à offrir. Pas juste les plages à offrir aux îles, d'avoir une bonne qualité, d'offrir notre bonne table qui a été longtemps une force pour les îles de la Madeleine aussi. Pour ne pas avoir peur de donner quelque chose de qualité.
Est-ce que les gens des îles sont toujours aussi désireux d'être accueillants?
C'est sûr qu'il faut faire attention. Il ne faut pas laisser montrer qu'on est fatigué. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on doit mettre les bouchées doubles. On a hâte que le touriste part. Ben moi, C'est sûr qu'il faut faire attention au débordement. Moi, quand je regardais l'été passé, qu'il annonçait des billets d'avion à 500 $ pour rentrer aux îles en plein mois d'août, je trouvais ça absurde. Les 500 $ on en a besoin dans d'autres périodes. C'est sûr qu'une diminution un peu du tarif peut aider la clientèle touristique. Et il faut éviter aussi, si on est saturé aussi au niveau de l'hébergement, au niveau de tout, là, que ce soit les déchets, que ce soit tout ce qu'on a, les maisons.
La vie civile, la vie sociale.
La vie sociale, le trafic et tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait une répercussion verbale, là, qu'on dit « on est tanné des touristes » et les touristes le sont, parce qu'ils peuvent aller ailleurs. Il faut faire très attention à ça.
Au fil des années, vous vous êtes diversifié, vous avez vu des besoins et l'entrepreneur en vous a vu des nouvelles opportunités.
Dans les années 2001-2002, quand j'ai commencé les autobus, le bateau de croisière, c'était un mât vacancier arrivé. J'avais l'agence de voyage affiliée à Québec. Puis, il y avait un manque de véhicules aux îles. Ça fait que j'ai vu appeler partout, appeler même les cours à scrap s'il n'y avait pas des voitures. Puis les clients me disaient, je vais aller chez vous, tu vas me réserver mon voyage à condition que tu me trouves une voiture. Fait que j'ai dit, on va partir une petite compagnie, mais juste une petite compagnie juste pour nos clients. Je pense qu'on avait 6 petites voitures neuves et 6 petites voitures usagées. Puis on a développé pour pouvoir au moins accommoder nos clients qui voulaient rentrer aux îles. L'année d'après, j'ai été à un congrès voyage chez AA, puis il y avait des représentants de la compagnie Hertz qui étaient là. Bon, on a parti avec une bannière. Ça nous donnait quand même une visibilité mondiale, mais avec des coûts aussi qu'elle avait ça aussi avec les années. Pendant 15 ans, on trouvait que ça nous coûtait cher. Pour les îles de la Madeleine, on était capable d'apporter de la main aussi de toutes les réservations sans avoir nécessairement de bannière. Et on avait le contrôle de notre compagnie.
Et aujourd'hui, location des îles a un nombre impressionnant de véhicules.
Ce qui est arrivé aussi, on voulait trouver une façon de augmenter la flotte pendant la période touristique, d'être capable de s'adapter à toutes les réalités. On a trouvé des partenaires qui faisaient qu'on pouvait quand même acheter nos voitures, puis on avait des partenaires qui nous les rachetaient. Ça faisait qu'on avait une flotte permanente et une flotte temporaire. Donc cette année, on a quand même une flotte d'une centaine de véhicules, toutes catégories. L'année passée, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Et dernièrement, on a quand même fait l'acquisition de location d'auto de l'archipel, opérée par M. Jean-François Leblanc père et Jean-François Leblanc fils, ainsi qu'on voyait souvent Mme Nicole Renaud, là, qui travaillait avec son conjoint M. Jean-François Leblanc. La flotte d'auto, le terrain aussi voisin de qui bornait avec nos deux entreprises. Et on a décidé de continuer les deux noms, la nôtre et la leur, pour la saison aussi 2023. Donc, ça nous permet d'avoir une flotte de, quand même de 125 véhicules tout de suite à opérer pour la saison estivale. Puis l'été, on a développé aussi le volet des scooters, les motos, Spider et tout ça, qui est un autre volet aussi. Il y a des gens que c'est leur transport aussi pendant la saison touristique. L'école de conduite, le remorquage. Le remorquage, bien, c'est sûr qu'avec les années, on a grossi. On fait du transport. Donc, on a bientôt une quatrième remorqueuse de plateforme. On a aussi un fardier qu'on s'est équipé l'année passée. Des gros camions qui amènent des plus gros équipements. Avec l'école de conduite, on donne beaucoup plus de variété que bien souvent dans des grosses écoles qui se limitent à de la moto, qui se limitent à l'auto. Donc, on donne beaucoup de services pour une petite école.
Odette Cormier, en terminant, comment voyez-vous l'avenir et quelle leçon vous tirez de la fameuse pandémie?
Des fois, on dit « la planète nous parle ». À chaque 10 ans, il arrive tout le temps une catastrophe qui fait que tu dois te repositionner toi aussi, gérer différemment. Et on continue à travailler fort et ne pas s'apitoyer sur la pandémie. On va quand même écouter quand même encore un petit peu, mais il ne faut pas s'arrêter là. À ce temps, il faut développer, il faut travailler tout le monde, il faut travailler dans le même sens. Puis il faut toujours imaginer. Il y a une situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Plus qu'il y a de la vie, plus qu'il y a de l'action, plus qu'il y a des problèmes aussi des fois, hein, des situations. Si tu prends toutes les situations, tu appelles ça des problèmes, ben, tu ne fonctionneras pas, tu ne pourras pas avancer. Ce n'est pas la même chose. C'est un problème si tu es malade, couché, puis que ta santé est gravement hypothéquée, c'est plus de problèmes. Mais moi, je dis, il ne faut pas que tu mettes toutes tes situations en même temps dans ton panier quand tu te lèves le matin. Tu les prends une à la fois. Puis des fois, du jour dans l'aéroport, il peut arriver toutes sortes de choses. Il peut arriver un accident, il peut arriver une voiture brisée, une voiture qui a une crevaison. Toutes sortes de choses qui nous arrivent. L'avion n'arrive pas, il y a de la brume, nos clients n'ont pas ramené la voiture à l'heure comme prévu. N'importe quoi qui peut nous arriver. On va vivre le moment présent. Je dis tout le temps, on va prendre la priorité prioritaire, on va prendre l'urgence urgente. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Ici, tu as une dizaine de situations à gérer, là, des situations importantes dans la journée. Ben, tu commences par la première. Continue avec la deuxième, la troisième. Ben, à la fin de la journée, tu as passé au travail. Hey, je suis forte. J'ai passé au travail. Tout ça, ben, demain, ça va être la même chose. 25 personnes qui ont travaillé pour nous autres cette année, c'était la plus grosse année d'employés. On est très fiers de notre personnel aussi. Je dis toujours à mes employés, on traversera le pont quand on arrivera à la rivière. Et dans nos vies privées, il faut faire la même chose. Dans notre vie, dans notre quotidien, il faut faire la même chose. Il faut prendre une étape à la fois.
Merci à Odette Cormier. Merci à vous d'avoir été là. Ici Michel Landry qui vous donne rendez-vous prochainement pour une autre histoire. Et d'ici là, portez-vous bien.